Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 16 février 95.
Je réponds d'abord aux questions. Alors, il est 4 heures du matin. Je présume que c'est hier et pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'est pourquoi, vous voyez, on dort et on est éveillé, n'est-ce pas? Alors, j'espère qu'il est éveillé à 4 heures du matin. Et je ne peux pas dormir. Donc, le réveil à 4 heures du matin étant en vue de dormir, d'habitude on dort pour être éveillé. Il est 4 heures du matin et je ne peux pas dormir. Up. tandis que le vrai, c'est la réalité qui existe. Mais cette réalité qui existe face à l'intelligence humaine, capable d'être comprise. Et la ratio veri, c'est le vrai que j'ai conçu, que j'ai compris, que j'ai appréhendé. Tout, j'ai saisi la ratio veri. Il faut bien distinguer, et c'est là l'analogie, les niveaux vers lesquels vous regardez. Je continue. Non. Par rapport à quoi le vrai ontologique est vrai, et par rapport à quelle puissance il est acte. Le vrai ontologique est vrai. En ce sens, le vrai ontologique, qu'est-ce qu'il exprime ? Archéologique ou en philosophie d'Aristote, la métaphysique d'Aristote, la métaphysique de ce qui est en tant que... On sauve une philosophie réaliste de l'esprit. Vous comprenez que la philosophie première, elle naît de l'esprit. C'est évident. C'est l'intelligence qui s'éveille en comprenant l'être à 4 heures du matin. Est-ce qu'à 4 heures du matin, celui qui avait de la peine à s'endormir, est-ce que son intelligence s'était éveillée jusqu'à la métaphysique? Non. Puisqu'il s'est demandé si le vrai ontologique n'était pas le vrai critique. Donc il est resté dans la philosophie contemporaine. Si je suis dans la philosophie contemporaine, la critique est antérieure à la métaphysique. Et je crois saisir la métaphysique en restant dans la critique.
Alors vous pouvez choisir Platon.
une fois Platon, une fois Aristote. Ils ont compris Platon en le lisant une fois. Ils n'ont rien compris Aristote en le lisant une fois. Alors ils ont choisi Platon. Ce qui est le plus intelligent, c'est ce que je comprends. Mais quand on dit ça, on oublie la philosophie de l'être. Et on est dans la philosophie de l'esprit, dans la métaphysique de l'esprit. Et on fait ça instinctivement, aujourd'hui. Ce qui est le plus intelligent, c'est ce que je comprends. Ce que je ne comprends pas, non, je ne suis pas intelligent. Ah, vous l'avez lu combien de fois? Et celui qui a écrit ça a pensé pendant combien de temps? Oui, c'est toujours ce que je pense quand je lis une thèse. Je dis, je lis une thèse une fois et je juge de l'intelligence de cette thèse qui a été faite pendant 3, 4 ans ou 5 ans. C'est une injustice faramineuse. En croyant qu'en la lisant une fois, je peux juger quelqu'un qui a travaillé 10 ans dessus. Or, on en est là. Et on juge ça comme ça. C'est quand même très curieux, hein. Point de vue art, si on faisait ça. Alors vous allez me dire, celui qui l'a lu une fois a beaucoup travaillé avant, c'est vrai. Et donc tout le travail qu'il a fait avant permet de comprendre plus vite, oui. Mais attention. Parce qu'on doit tout le temps tout reprendre. Alors, la grosse question, et ça c'est vrai, c'est la grosse question d'aujourd'hui. Nous sommes tous, et nous venons tous, de cette formation européenne actuelle. Donc on a tous été baignés dans la philosophie de l'esprit depuis Descartes. En France, en Allemagne, on a tous été baignés dans la philosophie de Kant. Et puis si on est tout à fait moderne, on a été baignés dans la philosophie de Hegel, ou de Marx, ou de Nietzsche. Et on croit être philosophe parce qu'on a lu Nietzsche. Et on juge tout en fonction de la philosophie de Nietzsche. Mais Nietzsche est le produit d'une quantité d'avant, parce que Nietzsche était intelligent, il avait quand même travaillé. Alors vous voyez, le gros problème aujourd'hui, devant la philosophie européenne et américaine, mais européenne, puisque au point de vue de la pensée, il y a quand même l'Europe, puis l'Amérique. Au point de vue de la pensée, on voit deux métaphysiques, métaphysique de l'être, métaphysique de la personne. Alors le problème et la séparation s'est faite par la confusion de la métaphysique de l'être avec la logique. Occam, il le dit expressément. Et à partir de Occam, ceux qui n'ont pas tout repris aboutissent à la philosophie de l'esprit de Descartes. Je pense. C'est premier. Quand Descartes dit « je pense, donc je suis », ce « donc je suis » est significatif. Il est second. Qu'est-ce qui est premier? C'est la pensée de Descartes. Et tout ce qu'il a, toutes les réalités, ça vient après. Donc je suis. Et à partir de là, on peut dire que la philosophie de l'esprit est première. Alors la question qui se pose pour nous, pouvons-nous redécouvrir la métaphysique de l'être à partir de la philosophie de Descartes? Ou devons-nous reprendre tout l'itinéraire, la philosophie de l'être, et voir qu'une philosophie de l'être poussée jusqu'au bout aboutit à la philosophie de l'esprit? Et pour moi, le lieu de rencontre des deux, c'est quand la métaphysique de l'être atteint l'être en acte. L'être en acte implique le vrai. L'être en acte, donc, philosophie de l'esprit. le bien, donc philosophie de l'amour. C'est l'être en acte qui seul permet de comprendre que la philosophie de l'être assume la philosophie de l'esprit. Et c'est pour ça que j'insiste et que je vous montre que la découverte de l'être en acte est capitale. Si je ne découvre pas l'être en acte, je ne peux plus atteindre la philosophie de l'esprit en partant de l'être. Et c'est ce qui s'est passé avec la scolastique. La scolastique, partant de la métaphysique de l'être, n'a plus découvert la philosophie de l'être en acte. N'a qu'à regarder les manuels thomistes. Dit thomiste. Il faut regarder au moins ça une fois dans sa vie. Hein. Regardez Macquart, puisque c'est le dernier. Et puis vous regardez avant Billuard. Il faut avoir une fois regardé ça. Regardez la nuit, j'étais Billuard, hein. Macquart. Bon, un manuel thomiste. Un manuel de scolastique. Regardez dans la table des matières. Cherchez l'être en acte. Hein? Cherchez. À l'être substance, oui. Et vous verrez que la substance est sujet. Donc, le point de vue logique. Et vous verrez que cette métaphysique fait une confusion constante avec la logique. Et voyez que la métaphysique scolastique a laissé tomber l'être en acte. En laissant tomber l'être en acte, le principe de causalité finale est devenu métaphorique. Il ne se repose plus sur l'être. Et laissant tomber la métaphysique de l'acte, vous ne pourrez plus comprendre ce que c'est que le vrai ontologique et le bien, d'où nécessairement développement de la philosophie de l'esprit. Il y a une logique interne qu'on voit, à laquelle on assiste. On fait de la philosophie à partir de la fin du XXe siècle. Je ne prends pas une méthode archéologique. Aristote m'intéresse parce que c'est le point de départ. Et que les problèmes se posent dans toute leur pureté avec Aristote. Platon m'intéresse parce qu'il a été le maître d'Aristote. Pendant 20 ans. Et donc il y a des tas de problèmes d'Aristote que je ne peux comprendre vraiment qu'en regardant Platon. Le néoplatonisme m'intéresse parce que c'est un développement qui veut faire une synthèse d'Aristote et de Platon. On veut assumer Aristote à travers Platon. C'est toujours intéressant de voir ça. Et on voit que ça n'aboutit pas. Parce qu'au fond, dans le néoplatonisme, c'est l'esprit qui absorbe l'être. Puisque au-delà de l'être, il y a l'un et il y a le bien. Donc vous voyez, ce que nous faisons, ça peut paraître quelque chose de très, très difficile. Je comprends que c'est très difficile, c'est pas commode. Alors, je vous ai déjà dit, on fait le cours pour les troisièmes années. Mais on peut toujours saisir quelque chose, puisqu'il y a toujours l'expérience. Et on essaie d'intégrer en métaphysique le problème de la personne. Ce qu'Aristote n'a absolument pas fait. Mais pour pouvoir intégrer en métaphysique le problème de la personne, il faut que le vrai et le bien soient intégrés dans la métaphysique de l'être. Si le vrai et le bien ne sont pas intégrés dans la métaphysique de l'être, la personne est considérée en dehors de la métaphysique, ce qu'a fait la scolastique. Alors que Thomas d'Aquin avait déjà essayer de bien saisir cela. Vous voyez, saisir, il faut se poser le problème. Y a-t-il deux métaphysiques? La métaphysique de l'être, la métaphysique de l'esprit. Si je veux être moderne, je fais la philosophie de l'esprit. Et je ne plus jamais atteindre la métaphysique de l'être. Je m'enferme dans Hegel, je m'enferme dans Descartes, et je demeure dans l'ontologisme, c'est-à-dire de l'intelligibilité, je rejoins l'être, et l'intelligibilité mesure l'être. Je vois par le fait même qu'au fond, la métaphysique d'Aristote, elle est très intéressante à un moment donné, jusqu'à Thomas d'Aquin. Après, c'est fini. Alors, je peux dire, Thomas d'Aquin et Aristote, ce sont de très grands esprits, mais à telle époque. Maintenant, nous avons découvert quelque chose de beaucoup plus important, l'esprit. Et nous restons uniquement dans la philosophie de l'esprit. Je dis, cette position ne peut pas être soutenue. Pourquoi? Parce que, en disant ça, je fais de l'esprit une substance. Et je me fais Dieu. Et c'est pour ça que le père Dubarle avait tout à fait raison de dire, si vous voulez utiliser Hegel en théologie, au bout d'un certain temps, vous perdez la foi. Puisque vous considérez que c'est ce que vous avez connu, ce que vous avez pensé, ce que vous avez digéré, qui est la mesure de toute chose. Il n'y a plus de place pour la foi. Et je suis en face d'une philosophie qui est issue de la foi, mais qui tue la foi. C'est ça qui est extraordinaire dans la position hegelienne. Et qui, pour ça, est très intéressant, parce que je dirais, Hegel, si on le comprend bien, c'est l'enterrement de première classe de Descartes. On voit que ça aboutit, l'enterrement de première classe de Descartes et de la foi de Descartes. Si Descartes avait encore la foi, puisque on met sans doute, certains se posent la question, est-ce que Descartes, si je prends son système, est-ce que je peux encore être un croyant? Et c'est une question intéressante, du reste. Une question qui est vraie, véritable. Est-ce qu'avec la position de Descartes, qui aboutit à Hegel, je peux encore avoir la foi? Y a-t-il encore la place à la foi? Oui. Quand le pape se pose la question, dans la culture moderne, il n'y a plus de place pour le sauveur. Je crois qu'il pose vraiment, en tant que successeur de Pierre, la vraie question. Est-ce que dans Hegel, pris au sérieux, il y a encore la place pour le sauveur? Il y a encore la place pour la foi? Ou il n'y a plus de place pour cela? Et c'est la rationalité qui prend tout. Oui, donc on touche des problèmes qui sont au cœur de notre vie d'homme et de croyant. Et si on opte pour une philosophie et une métaphysique de l'être, c'est que c'est la seule qui peut laisser la place à quelque chose de plus grand que moi. Autrement, le philosophe devient la mesure de tout, et donc il n'accepte rien de ce qui n'est pas lui. C'est dans ce sens-là, vous voyez, que beaucoup ont jouer avec ça. Alors, posez-vous toujours la même question. Et à ce point de vue-là, c'est très bien. La question du vrai. Quelle différence entre le vrai ontologique et la ratio vérité? Le vrai ontologique, je suis en métaphysique. La vérité formelle, je suis dans l'intelligence. Et la ratio vérité, je suis dans la critique. C'est ça qui est merveilleux dans cette question du vrai. C'est que je vois que fondamentalement, c'est l'être en acte. Formellement, c'est l'esprit qui l'emporte sur le vrai ontologique avec la vérité formelle. Et à ce moment-là, il y a l'affrontement avec la critique. Est-ce que la critique absorbe la métaphysique, absorbe la vérité formelle? Non. C'est la ratio veri, c'est-à-dire quelle est l'intelligibilité particulière du vrai. Et là, je conclue au transcendental. Alors, une autre question. Deux états, vous prenez toutes les autres expériences de ces deux. cite l'essai. Le vrai, le bien. Voyez, tout ça fait partie de l'être en acte. Ce n'est pas quelque chose extérieur à l'être en acte. C'est dans la lumière de l'être en acte que j'explicite ça. J'explicite l'être en acte au niveau substance. Puisque la première découverte de la métaphysique, c'est la substance. Donc je découvre le lien qui existe entre substance et acte. C'est tout à fait normal de faire ça. Je fais cette comparaison. Qu'est-ce que c'est que l'être en acte par rapport à la substance ? C'est l'essai. Comme la découverte de l'être en acte est quelque chose d'ultime et que ma métaphysique met l'intelligence en acte, j'essaie de découvrir le lien entre le vrai qui est l'être en acte par rapport à l'intelligence et la vérité formelle. Ce que nous avons essayé de voir, qui est un domaine extrêmement intéressant, puisque c'est tout le problème des rapports entre la métaphysique de l'être et la métaphysique de l'esprit. Je ne peux pas résoudre la question métaphysique de l'être, métaphysique de l'esprit, sans avoir compris que l'être en acte s'explicite dans le vrai ontologique. Et le vrai ontologique permet de comprendre la vérité formelle. La vérité formelle, c'est la qualité de mon intelligence. Mon intelligence n'est parfaite que quand elle atteint la vérité formelle. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence entre l'être et l'intelligence. Mais mon intelligence, elle est, elle existe. Elle est une modalité particulière de l'être. Mais cette modalité particulière de l'être est ouverte à l'être en acte. Avait le temps. C'est ici qu'on devrait faire la critique de Feuerbach. C'est par cette distinction du vrai ontologique relié au vrai en acte et distincte de la vérité formelle qu'on devrait faire la critique de Feuerbach. Parce que Feuerbach confond intentionnalité entre les deux. Alors, Feuerbach est le père des idéologies athées. Donc, il faut toujours s'attaquer au fondement en philosophie. Parce que, justement, il considère que l'intelligence humaine étant ouverte à l'infini, elle est Dieu. Il ne peut rien y avoir au-delà de l'intelligence humaine. Elle atteint un sommet. Et c'est vrai que du côté de l'intentionnalité, mon intelligence est infinie. Donc si mon intelligence est infinie du côté de l'intentionnalité et qu'il y a identité entre intentionnalité et essai, je suis Dieu. Et donc, poser Dieu, c'est oublier que je suis intelligent. C'est pour ça que Dieu est l'été noir de mon intelligence. Pour Feuerbach, c'est ça. Dieu éteint mon intelligence. Je n'ai plus aucune audace. Je deviens petit esclave. Parce que je suis croyant. Parce que je pose toujours Dieu devant moi. Parce que mon intentionnalité se développant dans l'intelligence est infinie. Je peux toujours l'arrêt. Et comme ça s'identifie à l'essai. Alors vous voyez l'erreur, hein ? Feuerbach confond vrai ontologique et vrai formel. Si je distingue bien les deux, tout Feuerbach dégringole. Je ne peux plus être séduit par Feuerbach. Je ne peux plus tomber dans les idéologies athées, intellectuellement parlant, où il y a la confusion totale de l'intentionnalité de l'essai. Ce qu'on appelle l'ontologisme. L'ontologie, c'est confondre l'intentionnalité de l'essai. Le vrai formel. Et le vrai, non, je dis le vrai ontologique. La distinction du vrai ontologique et du vrai formel, je montre que la métaphysique de l'esprit se fonde sur la métaphysique de l'être et ne peut pas se fonder autrement. Et en même temps, je réponds à l'erreur de Feuerbach en montrant que l'intentionnalité ne s'identifie pas à l'essai, que la vérité formelle est autre chose que l'être en est autre chose que l'être en acte, que le vrai ontologique. Alors évidemment, puisqu'on est en métaphysique, j'aime mieux développer la métaphysique pour elle-même, parce qu'on aurait pu voir Feuerbach et voir comment on peut le critiquer. Là, on se rend critique. Et on aboutirait à voir que la seule manière de critiquer Feuerbach, c'est de distinguer le vrai ontologique et la vérité formelle. Alors maintenant, en essayant de comprendre comment l'être en acte éclaire le bien, comment l'être en acte l'être en acte est présent dans le bien. Je montre que Platon s'est trompé, puisqu'il a séparé le bien de l'être. Et c'est tout à fait inverse de Feuerbach. Feuerbach identifie, Platon sépare. Mais c'est la même erreur fondamentale. C'est ça qui est très curieux. Ontologiste de droite, ontologiste de gauche, l'ontologiste de droite montre que le bien est supérieur à l'être. L'ontologiste de gauche montre que la vérité formelle, c'est le vrai ontologique. Oui, ce qu'on appelle l'ontologiste de gauche, c'est ceux qui nient Dieu. Et l'ontologiste de droite, c'est ceux qui affirment Dieu. Mais ils sont toujours dans l'ontologisme. C'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas l'être comme tel. Alors, si le bien est considéré comme au-delà de l'être, Platon, n'est-ce pas parce qu'on ne fait pas de distinction entre le bien dans l'objectivité de ce qui m'attire et mon bien ? Le bien en tant qu'il me complète. Mon bien. constamment. Quand on dit que la métaphysique nous conduit uniquement à l'universel, et puis il y a l'intelligence du cœur, vous voyez cette expression, l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur, c'est de croire que l'intelligence toute seule n'est pas du tout une intelligence qui saisit le bien. Et donc il y a le bien d'un côté et l'universel de l'autre. Ça, c'est l'erreur d'Occam. Donc, c'est juste de dire que ensuite, il y aura l'opposition entre mon bien et le bien. Mais l'erreur la plus fondamentale, c'est celle-là. C'est de ramener l'être à l'intelligibilité, à l'universel. Or, l'amour de soi étant ce par quoi le bien est mien, il devient constitutif de la bonté du bien. La conséquence de cette position en philosophie éthique n'est-elle pas dès lors de faire de l'amour de soi le principe qui structure l'amour d'amitié? Mais qu'est-ce qui fait ça? L'amour de soi n'est pas la structure de l'amour d'amitié. N'est-ce pas? Alors, il faudrait l'éthique. Oui, j'essaie de comprendre. Au fond, si je comprends bien, l'objection voudrait dire que séparer le bien de l'être en acte aboutit nécessairement à considérer que l'amour de soi est structure de l'amour d'amitié. Et c'est pour ça que Platon n'a pas découvert l'amour d'amitié. Ça, c'est juste. Mais c'est la conséquence. de l'amour en vous. Ça provient toujours d'un bien que je découvre, et donc d'un être existant que je découvre. Et découvrant cet être en acte, comme suscitant en moi l'amour, je dis c'est mon bien. Donc l'être en acte est bien en tant qu'il est capable de susciter en moi l'amour. Mais quand je dis en tant que, c'est une distinction formelle. Il n'y a pas de séparation entre l'être en acte et le bien. C'est Platon qui fait une séparation. Platon fait une séparation entre l'être et le bien. En ce sens qu'il considère que le bien